Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Durant plusieurs émissions, nous allons nous demander quelle est la place du chrétien dans la société dans laquelle il vit et quelle influence peut-il y exercer.
Nous allons aborder ces thèmes avec notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, la question qui nous intéresse est celle-ci. Le chrétien a-t-il un rôle à jouer dans la vie politique de son pays?
Et pouvez-vous nous éclairer sur cette question?
Je voudrais démontrer qu'en effet, le chrétien peut jouer un rôle dans la vie politique de son pays.
Certains chrétiens pensent néanmoins que nous devrions nous abstenir de toute participation à la vie politique. Ils affirment par exemple que Jésus n'a mené aucune campagne politique et qu'au premier siècle, l'Église naissante ne s'est pas non plus préoccupée de cet aspect de la vie.
Il est vrai que Jésus n'a pas fait de politique telle que nous l'entendons aujourd'hui. Toutefois, son ministère a eu une portée politique. Car les responsables politiques juifs et romains se sont sentis menacés par ses propos. Ils étaient inquiétés par sa présence et par conséquent, ils ont abusé de leur pouvoir dans l'espoir de se débarrasser un jour de lui. D'ailleurs, à travers les divers contacts que Jésus a eus avec les autorités, nous trouvons matière à réflexion concernant le thème de la politique. Quant à l'Église naissante, elle était très minoritaire. De plus, elle vivait à une époque où chaque individu devait déclarer son allégeance à l'empereur romain. Chaque individu devait, en effet, proclamer que César seul était bien son seigneur. Cependant, cet engagement engendrait un problème grave pour les chrétiens, car ils ne pouvaient plus déclarer leur allégeance à l'empereur, ils devaient plutôt proclamer que Jésus est seigneur. Cette profession de foi avait donc une portée politique. L'Église, par là même, s'opposait à la puissance de Rome et elle en subit les conséquences. En effet, elle dut endurer de terribles temps de persécution.
Une deuxième raison qui peut freiner la participation des chrétiens au monde politique, c'est sa réputation de compétition acharnée, voire de corruption. Beaucoup de chrétiens craignent les tentations liées à la vie politique et l'exercice du pouvoir.
Nous avons vu lors de notre première discussion que nous ne devons pas nous retirer du monde, mais demeurer dans le monde afin d'exercer une influence positive. Nous pouvons appliquer ce principe à la vie politique et affirmer que les chrétiens ne devraient pas se retirer entièrement de ce milieu, mais qu'ils devraient plutôt y exercer une présence dans l'espoir d'y promouvoir le bien. Je suis toutefois d'accord de reconnaître qu'il s'agit d'un milieu où les pressions et les diverses tentations sont fortes et nombreuses. L'intégrité de tout chrétien entrant dans ce monde sera grandement mise à l'épreuve. Et il faut l'avouer, celui qui parvient à demeurer juste malgré les pressions encourues risque fort d'être marginalisé.
Le tableau que nous dépeignons de la vie politique est plutôt négatif. Alors pourquoi, selon vous, est-il souhaitable que les chrétiens demeurent présents dans la vie politique d'un pays?
Nous avons affirmé dans une discussion précédente que le rôle du chrétien dans le monde est de s'opposer au mal, de ralentir ses effets et de promouvoir le bien. Or, justement en entrant dans le milieu politique, les chrétiens qui aiment le Seigneur parviendront à exercer une telle influence. Plus les chrétiens apporteront leur voix dans ce milieu, plus ils exerceront une influence positive.
Donnez-nous quelques exemples concrets.
Par exemple, le chrétien peut promouvoir une gouvernance plus intègre et encourager une gestion plus honnête des revenus de l'État. Le chrétien peut proposer des lois plus justes, défendant davantage les droits des citoyens vulnérables, tels que les veuves et les orphelins. Le chrétien peut faciliter la prise de décisions plus conciliantes et droites en situation de conflit.
Je constate que les prophètes de l'Ancien Testament ont beaucoup parlé des gouvernants. Ils mentionnent notamment le manque de justice et d'accès aux droits. Ils se souciaient des besoins des pauvres et des vulnérables. Maintes fois, ils ont dénoncé les abus de pouvoir. la maltraitance et l'exploitation.
Oui, et le chrétien aujourd'hui a ce même souci à cœur. Il aspire à une société plus juste, au bon déroulement des organisations politiques. Il souhaite le bien de tous. Certains, animés d'un tel désir, participeront à la vie politique de leur pays dans l'espoir de contribuer au progrès de leur société et d'y voir germer la justice et la solidarité.
Merci Robert, mais il est probable que peu de nos auditeurs se sentent capables de participer à la vie politique sur le plan national, en devenant député par exemple.
Je suis d'accord. Mais n'oublions pas qu'il est possible d'être actif sur le plan politique aussi bien au niveau local que national. Nous pouvons exercer une influence sur les dirigeants municipaux, ou les chefs de notre village par exemple, ou bien jouer un rôle au sein d'associations ayant leur place dans le paysage politique. Je reconnais que la plupart des chrétiens n'ont pas la possibilité de s'engager dans la vie politique. Cependant, de nos jours, beaucoup de pays sont démocratiques. Cela veut dire que nous avons le droit et la responsabilité de nous exprimer à travers les urnes, et nous pouvons ainsi choisir notre propre responsable. Voter, c'est participer à la vie politique du pays. Nous devons remplir ce droit avec beaucoup de sérieux. Avant de placer notre vote, nous devons nous demander quel candidat peut représenter au mieux les valeurs bibliques. Ou encore, quel candidat répondrait au mieux aux véritables besoins du peuple.
Ce choix paraît souvent difficile, car parfois aucun candidat ne semble correspondre à nos attentes.
Cela est vrai, et quelquefois il faut voter pour ceux qui, à nos yeux, fera le moins de mal. Il faut s'informer sur la politique des candidats et peser le pour et le contre, afin de discerner lequel parmi eux est le plus digne de recevoir notre appui.
Vous venez de souligner qu'il est important de voter, mais y a-t-il d'autres moyens pour un chrétien de participer à la vie politique?
Oui, il existe une arme à la portée de tout chrétien, la prière. Citons à ce sujet la première épître écrite par Paul à Timothée, chapitre 2, verset 2. « Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande le respect. » Dans ce passage, Paul souligne donc l'importance de prier pour nos dirigeants. Ils ont besoin de sagesse afin de prendre des décisions bonnes et justes. Ils ont besoin de rester humbles et de comprendre qu'ils sont au pouvoir, non pour servir leur propre intérêt, mais pour servir ceux de tous, ceux de chaque individu. Nous devons aussi prier pour les chrétiens qui s'impliquent dans la vie politique. Prier afin qu'ils demeurent intègres et ne cèdent pas aux multiples tentations et pressions. Ils ont besoin de sagesse et de discernement. Et si vous connaissez un chrétien engagé dans la vie politique, vous pouvez essayer de l'encourager et de le soutenir. Vous pouvez lui exprimer vos soucis, vos souhaits, et peut-être pourra-t-il vous représenter auprès des autorités.
Merci Robert. Nous avons apprécié ce bref tour d'horizon sur la question de la place du chrétien dans la vie politique. Il est vrai que ce sujet suscite de nombreuses interrogations et nous n'avons pas pu répondre à toutes. Mais nous espérons toutefois que l'enseignement apporté par Robert vous aidera à mieux comprendre ce sujet.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Nous avons appris que le fruit de l'esprit dépeint le caractère de Jésus-Christ et qu'il présente les qualités divines auxquelles tout chrétien doit aspirer. Notre invité Étienne va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera dans un premier temps la façon dont Jésus demeure pour nous un exemple à travers elle, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la première qualité mentionnée par Paul. Il s'agit de l'amour, et je cède tout de suite la parole à Étienne.
Merci Yann pour cette introduction, et bonjour à tous. Lors des deux méditations précédentes, nous avons considéré la façon dont Jésus est un exemple, la façon dont il nous a exprimé son amour. Nous nous sommes ainsi penchés sur sa vie et son ministère, puis sur sa mort sur la croix. Mais comment à présent, en 3 minutes, approfondir l'amour qui devrait se manifester dans la vie du chrétien comme l'un des fruits de l'esprit? Citons tout simplement quelques extraits de la première épître de l'apôtre Jean, mettant l'accent sur ce fruit de l'esprit qu'est l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours, à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. L'enseignement biblique sur l'amour doit orienter la motivation du chrétien, influencer toutes ses pensées, tous ses choix et ses décisions, et guider sa conduite et ses actes. Cette compréhension de l'amour de Dieu doit toucher toutes nos relations humaines. C'est pourquoi nous devons réfléchir à notre façon d'aimer notre famille, nos frères et sœurs chrétiens, notre prochain et même nos ennemis. Et ceci à l'exemple de Jésus. L'amour s'étend au-delà des sentiments bienfaisants. Il s'exprime par des actes concrets. Il englobe la compassion, la générosité et parfois même des sacrifices en temps, en énergie, en argent ou autre. Mes frères, mes sœurs, aimons-nous les uns les autres.
Merci Étienne pour ces rappels simples, mais ô combien nécessaires sur l'importance de la place de l'amour dans la vie du chrétien. Et nous supplions l'Esprit de Dieu afin qu'il produise ce fruit dans nos vies.
Nous poursuivrons nos deux séries la prochaine fois. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.